Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu, le podcast d'actu des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse. Si vous êtes passé à côté de l'info cette semaine, on vous fait une petite séance de rattrapage. La France, de nouveau au plus haut niveau du plan Vigipirate après l'attentat à Moscou, Arthur nous décrypte ce qui va changer. Comment combler le déficit record de la France ? Pierre nous aide à comprendre les annonces du Premier ministre. De son côté, Mathieu nous explique ce qu'est l'État islamique au Khorassan, l'organisation terroriste qui a revendiqué l'attentat de Moscou, une tribune pour défendre l'indépendance des médias, Lino revient dessus, et enfin, Anatole fera le portrait de Malika Sorel, numéro 2 de la liste RN aux européennes, une personnalité dont on a beaucoup parlé cette semaine. Mais d'abord, on commence par les infos à ne pas manquer, c'est l'heure du À flotter avec Valentine.
L'Assemblée nationale adopte un texte contre la discrimination capillaire. L'objectif, empêcher les employeurs de contraindre leurs salariés à lisser leurs cheveux pour dissimuler leur coupe afro, leurs tresses ou encore leurs dreadlocks. Le texte du député guadeloupéen Olivier Seran a été adopté par 44 voix contre 2 avant d'être transmis au Sénat où son avenir est incertain. Surprise pour le Sénégal, les élections présidentielles ont eu lieu mercredi et c'est l'opposant Bassirou Diomaye Faye qui l'a largement emporté dès le premier tour. Une victoire historique avec près de 54% des voix. Le verdict final doit intervenir d'ici vendredi avec la validation des résultats par le Conseil constitutionnel. Mais selon ces résultats, c'est la première fois qu'un opposant au camp présidentiel l'emporte aussitôt. À Baltimore, aux États-Unis, 2 corps ont été repêchés mercredi et 4 manquent toujours à l'appel après l'effondrement d'un pont. Ce dernier a été percuté par un porte-conteneur, un terrible accident selon les mots du président américain Joe Biden. Le navire en question, le Dali, avait déjà été impliqué en 2016 dans un léger accident dans le port d'Anvers, en Belgique.
La Corse va-t-elle devenir autonome, Valentine ?
Les élus corses ont adopté, à une large majorité mercredi soir, un projet constitutionnel prévoyant un statut d'autonomie pour la Corse. Les discussions avaient été lancées après des semaines de violence en 2022, suite à l'assassinat du militant indépendantiste Yvan Colonna. Pour qu'un tel texte soit mis en œuvre, il faudra modifier la constitution française. Un parcours législatif qui s'avère quelque peu périlleux.
Il y aurait des pesticides dans nos salades en sachet.
C'est l'alerte lancée par l'association 60 millions de consommateurs. Des analyses ont relevé la présence de résidus de pesticides dans de nombreuses références de salades comme bonduel ou florette. Certaines substances retrouvées peuvent être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Une attaque a eu lieu vendredi soir au Crocus City Hall à Moscou. 143 morts sont à décompter et l'attentat a été revendiqué par l'organisation djihadiste État islamique. Malgré tout, les responsables russes insistent depuis plusieurs jours sur une piste ukrainienne. La capitale Kiev dément pour sa part toute implication dans cette tuerie. 4 assaillants présumés ont été placés en détention provisoire.
Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Parti ! Mais qui elle est, celle-là ?
Quelle indignité.
Dimanche dernier, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé rehausser le plan Vigipirate en France à son niveau le plus élevé après les attaques terroristes de Moscou. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour les Français, Arthur ?
Urgence attentat, c'est le nom de ce niveau le plus élevé du plan Vigipirate. La décision du Premier ministre va donc impliquer une vigilance accrue autour des établissements scolaires par les autorités compétentes. Toutefois, ce ne sont pas les seuls bâtiments qui seront impactés par ce changement de vigilance. Hôpitaux, lieux de culte, gares feront également l'objet d'une surveillance renforcée. En fait, chaque lieu ayant pour but l'accueil d'un public sera particulièrement surveillé. C'est aussi le cas des manifestations et des concerts où les contrôles se multiplient, tout comme les patrouilles et les soldats de l'opération Sentinelle.
Ce n'est pas la première fois que le pays active un tel niveau d'urgence.
Non, ce n'est pas la première fois et loin de là. Un tel état d'urgence a déjà été activé en tout et pour tout 4 fois dans l'Hexagone. La première fois, c'était en 2018 après l'attaque du marché de Noël de Strasbourg et plus récemment après l'attaque et la mort d'un professeur au lycée d'Arras en octobre dernier, un niveau qui avait été levé à la mi-janvier, il y a seulement 2 petits mois.
Ça continue d'avancer dans l'affaire concernant le proviseur du lycée Maurice Ravel.
Menacé de mort après une altercation avec une élève à qui il aurait demandé d'enlever de voile. En fin de semaine dernière, le proviseur du lycée parisien Maurice Ravel avait démissionné de ses fonctions pour des raisons de sécurité. Seulement cette semaine, l'affaire a pris une autre tournure. La plainte de l'élève à l'encontre du directeur a été classée sans suite par le parquet. L'État a quant à lui annoncé porter plainte contre l'élève pour dénonciation calomnieuse.
C'était aussi une semaine importante pour la lutte contre le trafic de drogue.
Ce lundi 25 mars, c'est quatre nouvelles opérations anti-drogue, dites PlaceNet XXL, qui ont eu lieu. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a notamment indiqué qu'elles avaient mené à 496 interpellations. Lille, Dijon, Sevran ou encore Colombes ont été particulièrement visées par le ministère de l'Intérieur. D'autres offensives auront lieu dans les semaines à venir sur le territoire.
This is Elon Musk.
On l'évoquait dans notre émission la semaine passée, le déficit public est alarmant. Une situation catastrophique qui a conduit le Premier ministre à annoncer des mesures pour redresser la barre, Pierre.
Oui, la barre d'un bateau qui tangue dangereusement et pire, qui menace de chavirer. Car c'est bien le sort funeste qu'on nous prédit en Europe. Certains parlent à moyen terme de situation économique comparable à ce qu'a vécu la Grèce au début des années 2010. C'est vous dire l'ampleur du désastre. Nous avons la pire gestion des finances publiques en Europe. Gabriel Attal a donc dû se retrousser les manches pour rassurer les contribuables et les observateurs économiques.
Et le Premier ministre l'a assuré, l'argent ne sera pas cherché sur les impôts.
Oui, mais ce n'est pas pour autant que ça ne va pas se répercuter sur le quotidien des Français, car l'hypothèse d'une taxation des super-profits a rapidement été écartée. Donc, comment fait-on pour enflouer les caisses ? Sur le dos des petites fortunes, c'est l'assurance chômage qui est dans le viseur du gouvernement. Actuellement de 18 mois, l'indemnisation du chômage passerait alors à 12 mois. Et ce n'est pas tout, car aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années pour bénéficier de cette assurance. On pourrait passer à 6 mois sur les 18 derniers mois. Quoi qu'il arrive, Gabriel Attal assure qu'une réforme du chômage verra le jour d'ici le début de l'automne.
Mais ces objectifs fixés par Attal ne rassurent pas pour autant les agences de notation.
Non, on peut clairement parler de flop. Le Premier ministre nous promet 3% de déficit en 2027. Pour rappel, nous sommes actuellement à 5,5%. Promesse jugée quasi irréalisable. C'est l'agence Moody's qui a dégainé en première. Pour elle, les 10 milliards d'euros d'économies en 2024 seront insuffisantes pour redresser la situation. La France dépense pour le remboursement de sa dette près de 50 milliards d'euros d'intérêts aux créanciers. C'est ça, en réalité, qui plombe les finances publiques plus que les chômeurs.
Et les assurances ont, elles aussi, été plombées, mais par la météo en 2023.
Oui, 6,5 milliards d'euros dépensés en 2023 pour le remboursement des dégâts liés aux catastrophes climatiques. C'est simple, c'est deux fois plus que la moyenne annuelle des années 2010. Les inondations dans le nord, les tempêtes Ciaran, Domingos ou encore le séisme qui a secoué l'ouest de la France ont coûté très cher. Face à la multiplication des sinistres, les assurances augmentent donc leurs tarifs, plus 6% en moyenne cette année. Attention donc aux porte-monnaies.
Une plateforme est ouverte depuis lundi pour aider les lycéens en recherche de stage.
Un jeune, une solution est désormais accessible pour les 560 000 lycéens en recherche de stage. La plateforme doit pallier au manque d'offres pour les élèves. La période du 17 au 28 juin sera consacrée aux épreuves du bac pour les classes de première et de terminale et un stage en milieu professionnel pour les secondes. Il ne faut donc plus trop tarder.
God save the king.
Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
I have a dream.
Be you. Be proud of you.
On vous l'évoquait dans le afflux ôté, l'attentat de Moscou a été revendiqué dans la foulée par l'État islamique. Plus précisément, c'est la branche afghane du mouvement djihadiste qui serait à l'origine de la tuerie. On l'appelle l'État islamique du Khorasan. Mathieu, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ?
Eh bien déjà, Khorasan, en fait, ça correspond à la zone d'influence principale de ce groupe. Khorasan, c'est le nom médiéval de l'Afghanistan, qui comprenait alors une partie du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan actuel. L'organisation est active depuis 2015 et serait issue d'une scission avec les talibans pakistanais. Son but, étendre l'influence de l'État islamique en Asie centrale. Et puis, elle est surtout réputée pour son extrême brutalité.
D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'État islamique Khorasan revendique un attentat.
Le groupe djihadiste est principalement connu pour être à l'origine des explosions survenues aux abords de l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan en 2021. L'attentat avait fait plus d'une centaine de morts, dont 13 militaires américains. Plus récemment, l'État islamique Khorasan a revendiqué un attentat à la bombe qui a tué 84 personnes dans le sud de l'Iran en tout début d'année. Si l'Europe occidentale est pour l'instant épargnée, elle n'en reste pas moins menacée. Lundi, Emmanuel Macron a annoncé que la branche du groupe djihadiste avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives d'attentats sur le sol français.
L'ONU exige un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Une première depuis le 7 octobre et le début du conflit entre Israël et le Hamas. Une première permise par les États-Unis qui ont décidé de ne pas exercer leur droit de veto et de s'abstenir. Lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pendant la durée du mois de Ramadan et la libération de tous les otages retenus par le Hamas. C'est seulement la troisième résolution votée et adoptée par l'ONU sur le conflit entre Israël et le Hamas.
Cette semaine, Emmanuel Macron est allé au Brésil pour une visite de 3 jours, une grande première depuis qu'il est devenu président.
L'objectif était d'acter le réchauffement des relations entre la France et le Brésil après la fin des années Bolsonaro. Si Emmanuel Macron et son homologue brésilien Lula restent en désaccord sur certains sujets, comme sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, ils se sont entendus sur un programme pour lever 1 milliard d'euros d'investissement vert pour la forêt amazonienne.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Moi, tu me parles pas d'âge.
I recoup the ball.
Les atteintes à l'indépendance des médias se répètent, ce sont les mots des signataires d'une tribune mardi dans Le Monde. 70 sociétés de journalistes, médias, syndicats et collectifs interpellent la ministre de la Culture Rachida Dati. Leur souhait, qu'elle soutienne la proposition de loi transpartisane visant à protéger la liberté éditoriale des médias, Lino.
Le licenciement du directeur de la rédaction de La Province, Aurélien Vierre, la semaine dernière, ou encore les grèves qui ont agité les Échos et le JDD l'an dernier, s'inquiètent ces journalistes, ils veulent des garanties de l'indépendance des médias. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est certes la crise à La Province, mais aussi les propos de Rodolphe Saadé, nouvel acquéreur de BFM et de RMC. Il avait expliqué qu'il ne réagirait pas bien si un scandale concernant son groupe, CMA-CGM, était dévoilé dans un média dont il était actionnaire. Une atteinte grave à la liberté d'informer, selon beaucoup de journalistes.
Du coup, Lino, est-ce que la ministre s'est déjà prononcée sur l'indépendance des médias ?
Oui, Agathe, et elle estime que la loi en vigueur garantit suffisamment cette indépendance. Elle évoque la loi Bloche de 2016 qui vise à protéger le travail des journalistes. Mais pour les signataires de la tribune, il faut aller plus loin. Ils pensent à cette proposition de loi transpartisane déposée il y a plus de 6 mois qui souhaite protéger la liberté éditoriale. Elle sera d'ailleurs examinée le 4 avril.
Des députés alertent sur de possibles manquements lors du casting du film CE2 de Jacques Doyon, Lino.
Oui, 2 députés MoDem et une élue Renaissance ont visionné les auditions du prochain film de Jacques Doyon, dont la sortie est, rappelons-le, reportée. On aurait demandé à des enfants de se frapper. Une petite fille aurait été forcée à parler de son harcèlement, selon les députés. Des signalements ont été effectués. Jacques Doyon est également accusé par Judith Godrèche d'agression sexuelle.
On passe au sport à présent, Lino. Le parquet espagnol a requis mercredi 2 ans et demi de prison contre Luis Rubiales.
Luis Rubiales, souvenez-vous, c'est l'ex-président de la Fédération de football espagnole. Il avait embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso après la finale de la Coupe du Monde 2023. Il est poursuivi pour agression sexuelle et délit de coercition. Ce geste avait fait de l'ombre au sacre de l'équipe et provoqué une indignation en Espagne. La joueuse avait affirmé par la suite avoir reçu des pressions pour dire que le baiser était consenti. C'est pas la seule casserole qui vise Luis Rubiales. Il fait également l'objet d'une enquête pour corruption. Il aurait conclu un contrat pour délocaliser la Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite.
Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
Colline, c'est quoi ton journal préféré ?
Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ?
À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
Nouvelle prise de guerre pour le RN, le parti de Jordan Bardella s'est offert Malika Sorel comme numéro 2 pour sa liste aux européennes. Mais au juste, Anatole, c'est qui cette Malika Sorel ?
Si son nom ne vous dit rien, elle a pourtant erré longtemps dans les couloirs de la politique et elle se targue même d'avoir pu échanger avec beaucoup des grands hommes de la 5ème République. En 2009, elle a notamment été nommée membre du Haut Conseil à l'intégration sous Nicolas Sarkozy et elle avait également suivi François Fillon dans sa campagne de 2017. Alors Malika Sorel, elle s'engage en politique au moment des émeutes de 2005 auprès de Dominique de Villepin, puis sort son premier livre intitulé « Le puzzle de l'intégration » en 2007. Elle se dit spécialiste de ce genre de questions, étant née de parents algériens et ayant vécu en Algérie pendant une 15aine d'années. Côté parcours universitaire, elle intègre l'école polytechnique d'Alger avant de poursuivre ses études à Sciences Po Paris, dont elle sort diplômée en 1996.
Et du coup, pourquoi elle fait parler d'elle maintenant ?
Eh bien parce que son annonce est toute fraîche et que le RN n'a pas manqué de le faire savoir. Catapultée seconde de Jordan Bardella, elle risque de prendre en visibilité médiatique au fur et à mesure que les élections européennes approchent. Si elle se définit comme une « intellectuelle en politique », beaucoup l'accusent déjà d'opportunisme. En effet, le Canard Enchaîné a révélé seulement 3 jours après sa nomination qu'elle aurait inondé de textos Emmanuel Macron pour obtenir un poste de ministre, et notamment celui de l'éducation nationale. Ça la fout mal. Malika Sorel dit aujourd'hui vouloir lutter contre le chaos migratoire, sécuritaire et scolaire. Et pour elle, le RN est, je cite, « le seul parti qui en vaille la peine ».
Merci Anatole. Et pour rappel, les élections européennes se dérouleront du 6 au 9 juin prochain.
Thank you.
C'est la fin de cet épisode d'ActuVu. Merci à toute l'équipe et notamment à Paul, à la technique. La semaine prochaine, on prend un peu de vacances, mais on revient vite, c'est promis. D'ici là, suivez-nous sur Insta et TikTok. On poste du contenu régulièrement. Merci d'être à notre écoute. Bonne semaine à tous.